Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de prendre la parole, je laisse la parole à madame Souveton.
Alors voilà, je vous demanderai un instant de recueillement à la mémoire de monsieur Balser, ancien combattant et entraîneur à l'USL durant de nombreuses années, sans oublier madame Gamacho et monsieur Stéphane Jean qui nous ont quittés dernièrement. Je vous remercie.
Bien, étant donné qu'au 31 juillet, la circulaire pour la Covid-19 pour faire le CM à la salle polyvalente s'est arrêtée, nous nous réinstallons bien entendu à la mairie et à la salle des mariages par rapport aux personnes à mobilité réduite. Et sur la salle du conseil municipal, nous nous trouvons. Y être. Je fais l'appel, monsieur Ayosa Fabrice. Voilà. Madame Amaya Irios Estelle, absente au pouvoir, monsieur Grappin. Madame Bonifaci Sylvie.
Présent.
Monsieur Bouc Philippe, absent au pouvoir, madame Sauvadon Césarine. Madame Calégari Virginie.
Présent.
Monsieur Carpentras Henri.
Présent.
Madame Conté Soto Sophie.
Présent.
Monsieur Defès Jean-Marc, absent, excusé. Monsieur Faugérin, le président. Madame Fraisse Alexandrine, pouvoir à monsieur Carpentras Henri. Monsieur Grappin Jean-Louis.
Présent.
Monsieur Garinos Jean-Marc.
Présent.
Madame Amère Laurence.
Présent.
Madame Ermitan Tamara.
Présent.
Madame Kerbrat Isabelle, absente, pouvoir à madame Sandrine Sauvade. Monsieur Lambertin Jean-Pierre.
Présent.
Monsieur Misiréré Gérard.
Présent.
Monsieur Morel Stéphane.
Présent.
Monsieur Paré Franck.
Présent.
Monsieur Robin Christophe, absent, pouvoir à madame Anne-Marie Souveton. Monsieur Sardo Nicolas.
Présent.
Madame Sauvade Sandrine.
Présent.
Madame Sauvadon Césarine.
Présent.
Madame Sbati Samira.
Présent.
Madame Solia Kaline, absente, excusée. Madame Souveton Anne-Marie.
Présente.
Madame Zandrini Mercedes. Parfait. Élection du secrétaire de séance. Je vous propose M. Stéphane Morel. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Approbation du procès verbal de la séance du 11 juillet. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Aucune. Je passe au vote. Qui s'abstient ? M. Grappin. Mme Sbati. Monsieur Carpentras, pareil pour les pouvoirs.
Ouais.
Pareil. Donc les cinq de la de agir ensemble pour la PADU. Protection fonctionnelle sollicitée par les élus municipaux. Pour cette question, je demanderai à Madame Souveton, Madame Amer et Madame Ermitan de sortir, car ils ne peuvent prendre part ni au vote ni au débat. Ainsi que M. Robin qui est absent mais ne pourra pas prendre part au vote aussi. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de protection fonctionnelle sollicité par les élus municipaux. Je vous passe les codes généraux des collectivités territoriaux. La commune est tenue de protéger les élus ainsi que les agents contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu au titre des articles L2123-34 et L2123-35 du CGCT, le conseil municipal en tant qu'organe délibérant de la commune, est l'autorité compétente pour se prononcer sur cette demande au nom de la commune. Les membres du conseil municipal sont informés que des élus faisant l'objet d'insultes, de menaces et de harcèlement ont sollicité la protection fonctionnelle de la commune, à savoir Madame Anne-Marie Souveton, première adjointe, a fait l'objet d'injures publiques lors de la fête des Vallées par Mme Kelly Trevisan-Nuto. M. Christophe Robin, maire adjoint, a fait l'objet d'injures publiques lors de la fête des Vallées par Mme Kelly Trevisan-Nuto. Mme Laurence Amer, conseillère municipale déléguée, a fait objet d'injures publiques lors de la fête des Vallées par Mme Kelly Trevisan-Nuto. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection dans le cas où l'intégrité des élus est menacée. Cette protection consiste principalement à prendre en charge les frais d'avocat de l'élu. Il est précisé qu'une déclaration a été faite auprès de l'assurance SMACL, assureur de la collectivité dans le cadre du contrat responsabilité civile et protection juridique des élus. Au vu de ces dispositions, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'accorder la protection fonctionnelle sollicitée par les élus ayant fait l'objet d'injures publiques, notamment Mme Anne-Marie Souffton, première adjointe, M. Christophe Robin, maire adjoint, et Mme Laurence Amer, conseillère municipale déléguée. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Grappin.
Non, pas de questions, mais la justification de notre vote. On est complètement d'accord avec vous. Toute agression envers un élu, elle est inacceptable. Mais autant toute agression envers n'importe quel citoyen lambda est inacceptable. Et que, quand bien même à un moment donné, des désaccords naissent entre un administré et une position d'un élu, il y a d'autres moyens de le traiter qu'au travers d'une agression quelle qu'elle soit. Et on vous suivra là-dessus. Là où nous, on s'abstiendra parce qu'on manque un petit peu de tenants et d'aboutissants sur ce dossier. Juste pour rappeler que cette agression, on regarde la fête des Vallées, c'est faite il y a plus de 3 mois. On s'est vu en termes de conseillers du conseil municipal à 3 reprises et à aucun moment ce dossier n'a été évoqué. J'imagine que s'il était d'une gravité forte, on aurait pu en traiter avant. Donc nous, on ne va pas voter contre, on s'abstiendra et puis on s'en remettra et on suivra le jugement du juge qui sera amené à traiter le dossier. En vous disant qu'on sera toujours là pour considérer que cette position-là n'est pas acceptable. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres formes de résolution de cet incident? Voilà, on n'a pas les éléments, ni plus. Est-il nécessaire de donner beaucoup d'importance à la personne en question et au regard de ses agissements? Donc on s'abstiendra sur ce dossier.
Très bien, j'en prends acte, quoi qu'il en soit. En plus, ça tombe très bien parce que. Ce matin, dans les journaux, on a parlé, donc l'AMV a fait un article disant qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient des gros problèmes par rapport à l'insécurité et aux agressions qui deviennent de plus en plus récurrentes. C'est plus de 1800 en très peu de temps sur le territoire national, les élus bien entendu. J'aurais aimé que vous nous suiviez là-dedans sur le fait. Quoi qu'il en soit, il y aura une lettre envoyée à l'AMV et bien sûr à nos parlementaires, comme quoi vous vous abstenez là-dessus. Parce que même si vous êtes une opposition par rapport à nous, nous sommes quand même tous des élus de la nation et il aurait été judicieux que vous partiez directement avec nous. Maintenant. Monsieur Grappin, vous savez très bien que vous pouvez m'appeler. Vous auriez pu appeler Monsieur Andréotti. Il aurait pu vous donner aussi des billes là-dessus pour vous expliquer exactement les tenants et les aboutissants. Il y a une, je peux vous le dire, hein, il n'y a rien à cacher. Il y a eu une plainte de fait à la gendarmerie qui n'a plus ou moins pas abouti. C'est pour ça qu'on a directement référé au tribunal. Voilà, vous savez comment ça fonctionne, mieux que moi-même peut-être.
Non, enfin, l'aspect pour vous dire, je vous renvoie l'aspect en termes d'information. Hein. On s'est vu à 3 reprises, on aurait pu aussi avoir une information en disant voilà, il y a ça qui se passe. C'est quand même un fait qui est suffisamment grave. Alors, je ne sais pas après l'importance qu'il faut y donner au regard de la personne et son comportement, mais vous pouvez aussi faire en sorte que les élus, quand la question est importante et majeure, elle est grave, de pouvoir nous donner l'information et de ne pas nous tenir à l'écart de cette info pendant plus de 3 mois. Enfin, je pense que, effectivement, je peux parler de vous, on aurait pu, etc. Si j'avais dû appeler quelqu'un, c'était vous. On est bien d'accord qu'au travers de notre position, on n'est pas sur un retour, je manque. pas tous les éléments? Et surtout, pourquoi ça n'a pas été traité avant au regard de ce que vous évoquez et du fait que c'est inadmissible? Enfin, pendant 3 mois, cette personne, ben, je ne sais pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, en plein milieu d'un petit village, on entend de tout et de rien. Chaque fois, moi, je n'ai pu que dire, on n'a pas été informé par le conseil municipal de tout considérer qu'il n'y a rien. À un moment donné, si vous voulez que nous vous embarquez aussi, faites en sorte que l'info qui est minimale et suffisante à notre attention nous soit aussi à fond.
Madame Sbatti.
Alors moi, je vais vous suivre, parce que malheureusement, je vois ce nom qui se répète. J'ai mon petit papa qui a 80 ans, qui habite derrière. Sa porte est devenue une déchetterie, des déchets qui sont posés sur la voie publique, on ne s'en sort pas, il a été aussi menacé. Moi je suis désolée, mais quand je vois ce nom qui se répète, même une des deux, je me suis Jean-Louis, mais moi je voulais vous dire que je suis assez bien sûr.
Madame Caligari.
Alors moi si je peux me permettre, je pense que donc vous n'êtes pas allé peut-être à la pêche aux informations au niveau mairique, je pense qu'au niveau réseaux sociaux, cette personne a également agi plusieurs fois et sous couvert de vos commentaires à vous, Monsieur Grappin. Donc je pense que voilà, on n'est pas sans ignorer toute la haine que cette personne a envers les élus, enfin certains élus bien entendu, de notre commune. Voilà.
Madame.
Oui, Madame Sbatti m'avait interpellée au sujet de son papa. Donc en fait, quand on a fait remonter, on a fait intervenir la police municipale. Et suite à ça, en fait, son papa a été menacé.
Oui.
Donc c'est vraiment, on n'est
pas du tout. C'était au moment des élections.
Voilà, exactement. Donc, c'est sûr que c'est. Voilà.
La justice fait son travail, mais elle est, c'est toujours pareil, c'est assez long. Donc quoi qu'il en soit, avant de pouvoir aboutir, ça se fait pas comme... j'aimerais qu'en une semaine, tout soit réglé, clac, clac. Mais hélas, on ne peut pas faire directement être, pas condamné, mais d'aller au tribunal pour pouvoir régler le problème en une semaine. C'est le gros problème, donc voilà, c'est long. Et l'audience a lieu mi-septembre. Voilà, pour savoir, même si vous voulez, vous êtes invité le 15 septembre à l'audience au tribunal de Carpentras. Vous pouvez y aller, vous en saurez peut-être un peu plus, quoi qu'il en soit. Voilà, Monsieur Andréotti, ici présent en tant que DGS et moi-même, j'ai toujours dit, la porte est ouverte, même à l'opposition, même à qui que ce soit. Vous pouvez venir, je vous aurai donné tous les éléments voulus pour que vous en sachiez plus sur cette affaire. Et comme l'a dit Madame Caligari, Monsieur Grappin, vous êtes... assez sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe. On clore le débat, je passe au vote. Qui s'abstient donc? Monsieur Grappin, Monsieur Carpentras, pareil pour les pouvoirs. Donc Madame Amalia Irios et Madame Fraisse Alexandrine. Qui est contre? Vote à la majorité. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez rappeler, à part Siphone Bolotte? Non, ils sont là. Fixation des tarifs de location des salles communales et approbation des règlements d'utilisation des salles. Madame Anne-Marie Souveton.
Oui, alors, nous avons décidé de réviser les tarifs des salles communales. Parce que bon, le tarif avait été établi depuis quelques années et donc nous voulions favoriser les Lapaluciens. Les tarifs, tout le monde a eu les documents, les tarifs sont inchangés pour la salle du parc et l'espace culturel des Bourgades. Les changements s'avèrent sur l'espace de loisirs des Girardes. Ça a baissé pour un jour par semaine. Auparavant c'était 300 euros, c'est passé à 250 euros. 2 jours. 400 euros, les tarifs sont identiques. 3 jours hors période, le tarif a baissé, il est à 550 au lieu de 600. Ensuite, il a augmenté pour 2 jours week-end pour les particuliers ou les associations extérieures à la commune. Sauf un jour par semaine, il est inchangé. Et 3 jours hors période d'été, il passe à 1400 euros. Pour les entreprises ou les comités d'entreprises extérieures à la commune, Il passe de 650 à 800 euros pour un jour, à 1100 euros au lieu de 850 pour deux jours, et à 1550 au lieu de 1050 pour trois jours. Ensuite, concernant la salle polyvalente, c'était une usine à gaz. Il y avait des tarifs avec cuisine, sans cuisine, manifestation payante, pas payante, etc. Bon, donc on a tout mis à plat. Et là, donc, pour les manifestations avec entrée non payante et les soirées loto, 60 euros pour la salle entière avec une caution inchangée et on a rajouté le nettoyage des locaux. La salle polyvalente avec cuisine, toujours, pour les manifestations avec entrée payante, la salle entière, donc 100 euros au lieu de 94, caution 300 euros, nettoyage des locaux 350 euros. Donc, la gratuité de l'espace Julien, une fois par an pour les associations, comme d'habitude. Voilà, donc je vous demande d'approuver les règlements d'utilisation et de convention des salles communales annexées à la présente délibération, applicable à compter du 1er novembre 2022, et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Merci, Mme Soupton. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Rappé.
Il pourrait bénéficier de la gratuité alors qu'il ne pourrait pas le faire en ce moment. Donc, dans un souci cohérent, on salue l'effort de clarification qui a été fait sur les tarifs, les effets de baisse sur les particuliers ou associations, mais pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne Estelle, on restera sur notre position d'abstention pour être logique et cohérent avec notre position qui a été celle du 2021, de solliciter à ce que dans une démarche qui est de soutien du commerce local, on puisse. Économique, s'il en exprime le besoin, pour bénéficier de la gratuité d'une salle, type salle du parc.
Ok, alors je suis d'accord avec votre remarque, enfin, je suis pas d'accord avec votre remarque. À ce jour, et depuis 2020, eh bien, aucune entreprise n'a demandé à louer cette salle. Aucune entreprise à Palucène n'a demandé à louer cette salle. Ou est-ce qu'elle en bénéficie de façon gratuite? Personne n'est venu nous trouver pour nous dire on a besoin de cette salle. Voilà. Alors donc, bon, le jour où le cas se présentera, on avisera à ce moment-là. Toute l'école, il va nous.
Y a-t-il d'autres questions? Aucune, je passe au vote. Qui s'abstient? Donc, M. Carpentras, M. Grappin, Mme Amaya Herrios et Mme Fraisse Alexandrine. Qui est contre ? Vote à la majorité, je vous remercie. Création d'une servitude de passage sur une partie de la parcelle communale cadastrée B1194, lot B. M. Gérard Miséré.
Oui, bonsoir. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet d'une création d'une servitude de passage sur une partie de la parcelle communale cadastrée B1194. La société Lyon sollicite la constitution d'une servitude de passage tout usage, notamment pour les services de secours sur le domaine privé communal cadastré section B numéro 1194 de B. Il sera proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la création d'une servitude de passage d'une surface d'environ 830 m² sur le domaine privé communal cadastré section B1194 au bénéfice de l'acquéreur de la parcelle communale cadastrée section B1194, permettant notamment l'accès aux services de secours. De préciser que l'emprise de cette servitude sera établie sur la longueur de la parcelle et sur une largeur de 6 mètres. entre la parcelle cadastrée section B 1194, lot A et le fossé. D'autoriser l'acquéreur de la parcelle communale cadastrée section B 1194, lot A, à goudronner à ses frais l'assiette du passage. D'indiquer que les frais d'entretien, tels que le nettoyage, le débroussaillage des abords, seront à la charge de l'acquéreur de la parcelle communale cadastrée section B 1194. De dire que les frais d'acte sont à la charge du bénéficiaire de la servitude, soit à l'acquéreur de la parcelle communale cadastrée 1194. Merci.
Merci, monsieur Misiréré. Y a-t-il des observations ou des questions? Monsieur Rappé.
Je ne vais pas revenir sur mes. On avait discuté, je pense, au mois de juin sur. Vous avez fait part d'un désaccord sur les conditions, à la fois la forme, le prix, les conditions de cession à cet aménageur, sur le fait que. Vous avez indiqué que ce Misiréré, on allait aussi financer une partie des travaux de viabilisation, et là maintenant, M. Misiréré avait expliqué que. Vous n'envisagez pas de faire des travaux sur le chemin de la Vierge. Alors, il me semble qu'aux abords de la statue, d'ailleurs, il y a des carrefours, on est sur un carrefour qui demain devra supporter un trafic lié à ces 44 logements supplémentaires. Je ne sais pas comment on fait passer de voirie un cheminement piéton et le stationnement qui se fait sur l'eau. Mais... et ce soir, moi, j'ai le sentiment qu'on vient faire un petit cadeau supplémentaire à l'aménageur. On aurait sans plus. Imposer que cette voie d'accès se fasse au sein de son opération et qu'il habitualise avec d'autres aspects. Moi, je m'interroge sur deux aspects. Alors, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, le plan n'est plus ce niveau. Quand je regarde la partie nord de la voirie qui demain sera goudronnée, qui servira de voie d'accès, il me semble qu'elle aboutit en plein sur le portail qui aujourd'hui limite l'accès au gymnase. Donc, comment demain vous allez gérer le conflit et si on ne dépasse pas le portail, à mon avis, ça ne passe pas. Comment demain, sur cette voirie qui va se retrouver goudronnée, on ne va pas se retrouver avec des trafics, des trafics de motos, etc., qui n'ont pas lieu d'y faire. Après, sur la question du droit, mais je ne suis pas le spécialiste, donc je vous laisse préférer à d'autres. Je me pose la question, et M. Dégès saura de quoi je parle, quand on parle de théorie de l'accessoire, et à se poser la question si cette parcelle-là ne doit pas être considérée comme du domaine public, en considérant le fait que les travaux d'aménagement qui ont été faits sur cette parcelle qui visent à protéger l'ensemble de la voirie, des équipements publics qui sont à côté comme les inondations, et qu'on ne puisse pas, demain, on ne puisse pas considérer que cette parcelle est liée au domaine public du fait de ce caractère accessoire indispensable à la voirie. Auquel cas, la position de qui est compétent en termes de maîtrise d'ouvrage public pourra se poser face à toutes ces questions et moi face à ce constat où on vient... je pense qu'on aurait pu aussi imposer à l'aménageur de l'intégrer. On s'abstiendra sur cette question. En tout cas, je m'abstiendrai avec la voix de Mme Estelle Maria.
Très bien. Monsieur Grappin, en tant que directeur du SMBVL, vous savez ce que
ça
c'est.
Ça n'a rien à voir.
Non, mais si, laissez-moi finir. Vous savez très bien qu'il y a. Vous passez souvent peut-être en promenant à côté, il y a un fossé. Donc, si on avait voulu vendre carrément la parcelle complète, quoi qu'il en soit, ça reste à nous. C'est un droit de servitude. Ouais.
Mais je vous repose la question.
Non, mais attendez, laissez-moi finir, M. Grappin. Quoi qu'il en soit. Mais vous interviendrez après. Quoi qu'il en soit, c'est un fossé par rapport aux inondations qui pourraient arriver dans les mois ou dans les années à venir. Ce fossé va rester, mais nous, il faut bien qu'on l'entretienne. Et on ne pouvait pas non plus leur vendre la parcelle complètement. Donc c'est pour ça qu'on a laissé ça pour les pompiers et pour qu'on puisse, nous, les services techniques, intervenir lorsqu'il faut faire du faucardage, tout simplement. Après, vous le tournez à votre façon, soit, mais on ne pouvait pas leur vendre la parcelle totale, tout simplement. Et en plus, ces gens, pour moi, sont très sympathiques, puisqu'ils veulent goudronner directement ce morceau de 6 mètres qui fait 830 mètres carrés à peu près. Voilà, tout simplement. Après, voilà, vous le tournez à votre façon. Que vous soyez contre, soit, mais voilà, il n'y a pas...
Je vous ai pas dit que à aucun moment, j'avais envisagé qu'on puisse vendre cette parcelle-là au regard de l'usage qu'elle en a. Je vous même dis le contraire en disant au regard de l'aménagement tel qu'il a été fait en son temps, demain... Mais je laisserai les spécialistes se poser la question, est-ce qu'au regard de la théorie de l'accessoire, il y a des domaines de l'intérêt public, que cette parcelle ne doit pas être considérée comme étant de domaine public. Si le tout le monde considère que c'est du domaine privé et qu'il n'y a pas de lien entre l'aménagement qui est fait sur cette parcelle et les usages qui sont faits ailleurs, pas de souci. Je vous redis, on aurait pu aussi imposer à l'aménageur qu'il soit chez lui pour la gestion d'accès. Si tout se passe bien, pas de souci. Si demain il y a un conflit parce que la voirie d'accès pour une raison ou une autre est inaccessible, la responsable de la mairie sera engagée. J'imagine que dans le cadre du permis de construire, cette problématique de voirie d'accès secours a dû être évoquée. Voilà. Vous avez imaginé un scénario, je suis plutôt défendeur d'une position où l'aménageur aurait pu aménager sa voirie d'accès au sein de son équipement sans que ça remette en cause quoi que ce soit. Et que le fait que ça ne soit pas goudronné n'interdit pas le fossé de fausser de manière normale. Au contraire même, on regarde la permis de
Après, vous avez parlé du portail, ça n'a rien à voir avec le portail, ils ne passeront pas par là. Hein. Il n'y a personne qui va passer par le portail du gymnase.
Je sais pas comment est fait votre plan, mais on a bien aujourd'hui, tel qu'il est dessiné, marqué en jaune, on a bien une servitude d'accès qui est créée du point du sud, c'est-à-dire du débouché sur le chemin de la Vierge, qui va jusqu'à la parcelle qui est au nord, qui correspond à l'entrée de la voirie du gymnase. Ou alors le plan n'est pas bon, et la servitude ne se crée pas sur la totalité, mais le plan tel qu'il est fait là, indiqué, créer une servitude jusqu'au niveau du portail d'accès au gymnase.
Il n'y aura qu'une sortie et elle sera au sud, côté Vierge.
Piétonnier.
Voilà, tout simplement.
Juste un rajout au sujet de la rue de la Vierge. Il y a bien un projet de prévu, mais on attend qu'ils finissent tous les travaux. C'est-à-dire qu'il y aura un chemin piétonnier qui est prévu.
Ça, vous m'avez évoqué
l'autre fois. Ah non, mais vous avez dit tout à l'heure.
Non, ce que vous aviez évoqué l'autre fois, c'était dire qu'on ne fera pas de travaux de voie étroite, le chemin piétonnier. Je vous redis que, compte tenu de la largeur de la voie, dans sa partie qui est à proximité du carrefour, on n'arrive pas à passer une bande de stationnement, deux voies de circulation et un cheminement piéton. Enfin, la largeur ne passera pas. Ou alors, demain, ça veut dire qu'on va se retrouver à faire en sorte qu'on va venir reporter
l'ensemble. Il n'y a pas de stationnement,
Non, mais au niveau du carrefour de la Vierge, vous n'avez pas les stationnements des voiries, vous avez une dizaine de voitures tous les soirs qui stationnent
oui,
là.
Mais normalement, il
y a des zones de parking dans le
justement,
qui va être en face. C'est prévu. Ça a été prévu. Gare Aurore en face, c'est plus le long du chemin. Ça a été négocié avec le lotissement qui est en bas. Voilà.
Il y a 10 places de prévu
pour rassurer M. Harpin. Et tous jusqu'au bout.
Voilà. Une autre question. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Agir Ensemble. Vote à la majorité, je vous remercie. Convention entre la communauté de communes Orléans-Provence et la commune de La Palue relative au reversement de la taxe d'aménagement. Monsieur Jean-Pierre Lambertin.
Oui, il s'agit de se mettre en conformité avec la réglementation. Bon, d'abord, la loi NOTRe renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomérations et prévoit le transfert obligatoire à compter du 1er janvier 2017 de l'ensemble des zones d'activité. Ensuite, vu la délibération du 27-09-2016 du Conseil communautaire concernant le transfert de compétences zones d'activité existantes, fixation des périmètres des zones d'activité transférées. Ensuite, vu la loi, la loi de 2021-1900 du 30 décembre 2021 qui dit « Si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de toute ou partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI est obligatoire, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. » Ensuite, considérant que le partage de la taxe d'aménagement est assis sur l'ensemble de la taxe d'aménagement perçue par les communes membres sur l'ensemble du périmètre communal et qu'il est obligatoire sur les parties du territoire où l'intercommunalité finance des équipements publics qui relèvent de sa compétence et qui sont liés aux autorisations d'urbanisme délivrées par la commune. Ensuite, vu l'ordonnance du 14 juin 2022 qui est récente, qui modifie les dates d'adoption des délibérations relatives à la taxe d'aménagement et qui précise que pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, la date est fixée au 1er octobre 2022 à titre transitoire, c'est-à-dire qu'on n'a plus que on a moins d'un mois, et qu'à compter de 2023, la date sera fixée avant le 1er juillet pour une mise en œuvre au 1er janvier de l'année suivante. Considérant que cette ordonnance ne prévoit aucun délai pour le partage en 2022 lorsque le territoire n'a jamais délibéré au titre du partage de la taxe d'aménagement et que les collectivités sont invitées à délibérer dans le meilleur délai. Donc ce qui est proposé au conseil municipal, c'est d'approuver la convention relative au reversement de la taxe d'aménagement pour les exercices 2022 et 2023 qui portera uniquement sur les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme située en zone d'activité économique et zone d'aménagement concertée, ZAC. Alors, de fixer le taux de taxe d'aménagement reversé de la manière suivante, 100% du produit de la taxe d'aménagement perçu sur les zones d'activité économique et 70% du produit de la taxe d'aménagement perçu sur les zones d'aménagement concernées, sur les ZAC. Donc, et ensuite, nous avons noté toutes les parcelles concernant les zones, l'enclos, les planières, les massigas, le rond-point de Pompadour, il y a une petite zone là, et la future zone d'activité donc dans le secteur de la gare. Voilà, donc c'est ce qui vous est proposé de voter pour se mettre en conformité avec la loi.
Merci Monsieur Lambertin. Y a-t-il des questions ou des observations, Monsieur Grappin?
L'Interco donc, travaille sur le dossier, voilà, donc on en a parlé encore hier à l'Interco, donc ils terminent quelques dossiers qu'ils ont à finir sur la ZAC, et après ils attaquent notre dossier à nous. Voilà. Donc après, bon, ben, bien sûr, hein, contact a été pris avec les propriétaires de terrain, moi j'ai appelé quelques propriétaires de terrain, mais après c'est à l'Interco à prendre le relais. Hein, voilà.
Donc, je vais rajouter qu'on pouvait surtout pas modifier le PLU, tant qu'on n'a pas acheté des terrains, vous savez très bien comment ça fonctionne.
Oui, la raison pour laquelle...
Là, sinon, c'est plus 5 euros. Un exemple, 5 euros, c'est multiplié par 4 le prix du terrain. Il y a d'autres questions dessus? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Très bien, on a fini. Juste une petite erreur sur la décision sur... du libre sur les délégations d'attribution. Au niveau de la décision 2022-088, ça n'a pas fini, il y avait marqué pour charger, alors qu'il fallait dire en charge d'encadrer les enfants porteurs de handicap. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie, je vous souhaite à tous une très belle soirée et une très bonne fin de semaine.
Signature.
Pensez à signer.
Oui.
On le fait passer là-bas, on met directement là-bas. Je mets les feuilles d'émargement ici, je mets les feuilles à cet endroit-là, comme ça au moins.
Il y a de la place. Ça fait plaisir de savoir qu'on est soutenu par les collègues.